Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui évidemment choque tout le monde.
Un lundi difficile pour ces employés de France Télécom. Ils se retrouvent sur leur lieu de travail, au pied de cet immeuble, d'où s'est jeté vendredi leur collègue âgé de 32 ans.
Salut, c'est Thomas Rozek. Au début du mois, un procès peu commun s'est ouvert, celui d'une des affaires les plus emblématiques du drame que peut être la souffrance au travail. Le procès d'Orange est précisément celui de sa mutation lorsque l'ex-France Télécom, l'historique opérateur public, s'est transformé peu à peu en acteur privé. Un changement à marche forcée d'une brutalité rare avec des conséquences lourdes, une vague de suicides dans l'entreprise, une mode selon son ancien PDG Didier Lombard, aujourd'hui jugé avec 6 anciens hauts responsables du groupe pour harcèlement moral et complicité de harcèlement. On pourrait croire que cette époque de casse sauvage de l'emploi et des salariés est révolue. Ça n'est pas complètement vrai. En 2019, on meurt toujours au travail, involontairement ou volontairement. Et cette réalité qu'on peine à voir, elle va nous occuper le temps d'un double épisode dont la première partie démarre tout de suite. Bienvenue dans Programme B. Depuis quelques semaines, je vois passer sur mon fil d'actu Twitter un étrange décompte qui commence à chaque fois par ces mots.
Allô, Muriel Pénicaud, c'est pour signaler un accident du travail.
Cette adresse directe à la ministre du Travail, sur le modèle de ce que fait le journaliste David Dufresne avec les violences policières, il vient d'un compte Twitter au nom assez explicite. Accident du travail, silence, des ouvriers meurent. Il existe depuis janvier dernier, depuis la mort d'un jeune livreur Uber Eats, Franck Page, en Gironde, percuté par un camion alors qu'il allait livrer un client. L'histoire a motivé Mathieu Lépine, prof d'histoire à Montreuil, à se remettre au travail de veille, qu'il avait d'abord commencé sur un blog, puis sur Facebook quelques années plus tôt. Succès immédiat sur Twitter, plus de 11 000 abonnés aujourd'hui, et je suis allé rencontrer Mathieu Lépine chez lui pour qu'il raconte cette veille quotidienne et les raisons qui le poussent à poursuivre.
Malheureusement, ce qui fait que le début de ce compte Twitter a aussi fonctionné, c'est ces deux accidents emblématiques et dramatiques qui ont eu lieu. Donc celui de Franck Page, le jeune livreur Uber Eats de Pessac, et celui d'un ouvrier auto-entrepreneur de 68 ans qui, lui, est décédé en chutant d'un toit à Versailles. Et ces deux affaires, en fait, ces deux drames sont arrivés l'un derrière l'autre quasiment dans la même semaine. Et du coup, ça a choqué beaucoup de monde. Et le fait que j'en parle beaucoup sur la page au début, je pense que ça a aussi joué. Donc il y a eu la concomitance entre tous ces faits qui sont arrivés en même temps. Et c'est ce qui fait, je pense, que ça a bien démarré. Ce qui fait aussi que ça a bien pris sur Twitter plus que sur Facebook, c'est la présence des journalistes. Il y a beaucoup plus de journalistes sur Twitter. Les quelques-uns que j'ai pu rencontrer ces derniers temps m'ont tous dit « Facebook, on n'y est pas ». Et du coup, le fait qu'ils soient présents sur Twitter, ça a permis, je pense aussi, des partages sur des comptes de journaux ou de médias qui ont permis une diffusion beaucoup plus rapide que sur Facebook, qui est réservée à un autre type, on va dire. C'est une autre démarche. Sur Twitter, c'est un peu plus militant. Il y a beaucoup de militants présents sur ce réseau social-là. Facebook, c'est un peu plus... pas familial, mais c'est pas exactement le même genre de démarche. Les gens viennent pas pour la même chose.
Est-ce qu'il y a comment il fonctionne votre système de veille concrètement? C'est tout repose sur vous ou est-ce qu'il y a une communauté un peu qui s'est bâtie autour du compte avec des gens qui vous signalent potentiellement des cas d'accident du travail? Je reste sur l'exemple de David Dufresne parce que je sais que lui ça fonctionne en partie comme ça. Il y a pas mal de gens qui lui signalent des cas de violence policière. C'est pareil pour vous?
Ouais, donc à l'origine je suis tout seul à faire ce travail-là. Maintenant, depuis que la page est un peu plus médiatisée, on va dire ça comme ça, j'ai plusieurs fois par jour des personnes qui me contactent pour me raconter ce dont ils ont entendu parler, ce qui parfois est un peu compliqué entre ce qu'ils ont entendu et la réalité, c'est assez difficile parce qu'après il faut que je creuse et que j'essaye de trouver d'autres sources et que parfois j'y arrive pas, donc je laisse de côté ce qu'on me raconte. Quand j'y arrive, tant mieux. J'ai même parfois des inspecteurs du travail qui me contactent en me disant, tiens, j'ai tel collègue aujourd'hui qui a été sur tel chantier, il s'est passé ça. Et puis j'attends de voir si l'affaire va sortir. Et puis quand ça sort, je me dis, ça c'est une source intéressante, c'est quelqu'un qui est fiable, qui pourrait m'aider. J'ai vraiment des gens qui, en lisant les actualités dans le journal local, ont vu tel truc, ils me le partagent. Parfois, je reçois des numérisations, des gens à qui il arrive un accident, qui se prennent en photo, qui m'envoient leurs photos. Regardez, il m'est arrivé ça, j'ai été blessé. Alors moi, je recense essentiellement les accidents graves et mortels. Oui. Alors parfois, j'estime que l'accident n'est pas considéré comme grave, même si c'est un accident, que la personne est blessée et qu'il ne s'agit pas du tout d'amoindrir les faits, mais je reçois vraiment de tout. J'ai même parfois des gens qui pensent que je suis le spécialiste français des accidents du travail qui me demandent une aide juridique. Alors, je suis obligé de leur dire, doucement, je sais pas du tout, je pourrais pas vous aider. Moi, c'est une démarche citoyenne, de veille, etc. Mais il y a plein de choses que je ne sais pas faire, il y a plein de choses que je ne sais pas, et je peux juste vous conseiller d'aller voir telle ou telle personne, mais ça ira pas plus loin. Y a souvent des gens qui m'envoient des liens aussi, qui reviennent d'années précédentes, ou alors du coup, il faut que je trie. Mais régulièrement, on m'envoie des messages intéressants, des liens que je n'avais pas lus. Parce que maintenant, j'ai des Google Alerts, donc dès qu'un accident du travail est évoqué dans un journal, dans un média, normalement, je reçois un mail. Donc, tout ça, pris en même temps, toute cette petite aide qui arrive de partout, c'est clair que ça m'aide beaucoup. Et je remercie d'ailleurs tous les gens qui quotidiennement, parce que c'est souvent les mêmes personnes qui m'aident. Et ça fait qu'en gros, ma veille est quand même plus... j'ai un panel beaucoup plus large. Je vois beaucoup plus de choses maintenant qu'il y a 3, 4 mois ou même il y a un an. Et voilà.
Si on revient sur les deux accidents qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont à l'origine donc de la reprise du travail de veille, notamment de son passage sur Twitter. Donc c'est l'accident, on le disait, de Franck Page, qui est ce jeune livreur Uber Eats qui est mort à côté de Bordeaux alors qu'il était en pleine livraison. Et le cas de cet ouvrier qui est décédé, cet auto-entrepreneur ouvrier qui est décédé sur un chantier à Versailles. Ce compte-là, quand on le suit, moi, c'est mon ressenti en tant que, là pour le coup, utilisateur, internaute, c'est qu'il donne un panorama aussi de ce que donne, du résultat de la dégradation du travail en France. C'est-à-dire que la précarisation, l'ubérisation, pour reprendre un terme qui était très à la mode il y a 2 ans, ça donne aussi des gens qui meurent, tout simplement, en faisant leur boulot.
Il y a souvent des gens qui me disent « Oui, mais vous êtes un rabat-joie, regardez, les accidents du travail sont en baisse, regardez si on compare à l'an 2000. » Alors oui, tant mieux, on s'en félicite, il y a moins d'accidents mortels en 2019 qu'en l'an 2000, tant mieux. Maintenant, pour reprendre ce qu'on était en train de dire, il y a une évolution par contre des accidents du travail. Il y a des domaines qui sont beaucoup plus accidentogènes que d'autres. Par exemple, l'intérim, on se rend compte qu'il y a une explosion des accidents du travail dans l'intérim. Dans le secteur des services à la personne, où beaucoup de femmes sont employés, il y a une explosion des accidents du travail. Parce que là encore, j'ai des imbéciles parfois qui viennent me dire « Ouais, c'est que des hommes, regardez, les femmes sont tout le temps en train de se plaindre, mais qui est-ce qui meurt au travail ?» En fait, c'est des gens qui n'y connaissent absolument rien, puisqu'il suffit de regarder les études les plus récentes pour se rendre compte que, justement, l'écart entre hommes et femmes dans les accidents du travail se creuse, que les femmes sont de plus en plus touchées, Mais on en parle moins parce que c'est dans des domaines dont on parle pas ou peu. C'est l'infirmière qui se déchire l'épaule, c'est l'aide-soignante qui s'est cassé le dos, etc., etc. Et bah voilà, moi je reviens là-dessus parce que des fois je réponds même pas à ces remarques-là, oui. Parce que je me dis que si on commence à rentrer là-dedans, on n'en finit plus. Et des fois, les gars, genre, il est baffé quoi, quand je lis. Je dis des gars parce que je pense que c'est les gars. C'est, en règle générale, c'est toujours des gens derrière des pseudonymes, de toute façon, hein, ouais. Ceux qui sortent des conneries comme ça. Et pour en revenir à l'ubérisation, ce dont je me rends de plus en plus compte, c'est en effet les accidents d'auto-entrepreneurs, de gens en fait qui sont seuls. C'est ça aussi le problème. Sur des chantiers, maintenant, on a des gens qui sont ouvriers, auto-entrepreneurs, donc ils viennent, ils ont une compétence, ils viennent pour cette compétence seuls sur un chantier, alors que normalement sur un chantier on est censé être au moins deux. En cas d'accident, il y a une multiplication de ce type d'accidents, de gens seuls qui sont retrouvés après une chute, après s'être coincés, être resté coincé sous une machine, etc. Et donc, comme on le disait, il y a vraiment une évolution. Et l'ubérisation, la précarisation du travail ont clairement joué un rôle immense dans cette dégradation des conditions de travail qui concerne essentiellement les plus précaires. Et on le voit avec les cas qu'on a cités précédemment, mais récemment, j'en ai encore vu d'autres dans le même genre, quoi.
Il y a des cas aussi qui sont régulièrement relayés par votre compte, que vous relayez régulièrement. C'est des cas de suicide liés au travail. Parce que donc, ça rentre ça forcément dans le champ, on va dire, de la souffrance et donc des accidents du travail, on va dire, même si ce n'est pas forcément un accident au sens strict, on va dire. Ça aussi, ça fait partie, enfin, vous l'avez intégré assez rapidement finalement dans le boulot de veille. Dès le début, c'était prévu de, on va dire, d'intégrer ces cas-là.
Les suicides, c'est toujours compliqué parce que un suicide, il y a rarement une raison qui a mené à un suicide. Souvent, c'est multiforme. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui ont pu mener à ce suicide. Moi, je prends en compte uniquement ceux dont la cause avérée est le travail. Quand le chirurgien de l'hôpital Avicenne se suicide depuis son bureau avec sa blouse de chirurgien, un jour où il ne travaille pas, qu'il vient au travail pour se suicider, j'estime qu'il y a un lien énorme entre le travail et le suicide. Quand un cheminot, la semaine dernière, pose sa carte d'identité de cheminot, dont j'ai oublié le nom, et va se suicider à quelques mètres, quelques centaines de mètres des bureaux de la SNCF à Saint-Denis, difficile quand même de ne pas voir le lien entre le suicide et le travail. Et surtout que derrière, on nous apprend que voilà, les conditions de travail se dégradent dans le service, etc. Donc finalement, des suicides, j'en ai pas tant que ça. J'en ai qui reviennent régulièrement. Mais si on regarde le nombre de suicides, c'est énorme, quoi. Après, je sais qu'il y a le syndicat Sud qui recense vraiment là tous les suicides liés au travail. Et je pense que la personne qui s'intéresserait au suicide devrait plutôt se centrer sur le travail qu'ils font, puisqu'il est vraiment ciblé sur la question des suicides. Moi, je prends vraiment en compte uniquement ceux où le lien avec le travail est pas 100% avéré, mais vraiment un lien proche, quoi. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est pas uniquement de faire une liste, parce que ça serait pas tellement intéressant. La première chose que j'essaye de faire, c'est déjà de montrer que derrière chaque accident, il y a une personne, il y a une vie derrière. C'est pour ça que dès que j'ai le nom de la personne, je le donne, parce que c'est pas un ouvrier, c'est pas un numéro qui est décédé, quoi. C'est une personne, un nom, un prénom, avec une famille. Et je fais parfois aussi des petites publications où je reviens, je rends hommage à quelqu'un qui est mort il y a 3, il y a 4, il y a 10 ans, pour essayer aussi, je suis prof d'histoire, donc c'est peut-être le côté historien, de revenir un petit peu en arrière, de rendre un peu hommage à ces personnes. Et donc le premier but que je me suis donné, c'est ça. Et après, bien évidemment, il y a un côté certainement engagé, qui fait que il y a aussi la volonté de montrer que tous ces accidents, ils sont pas juste le fait du hasard, ce ne sont pas juste des faits divers, parce que dans tous les médias, les accidents du travail sont classés dans les faits divers. Je suis désolé, mais quand il y a 630 000 accidents du travail par an, pas un fait divers. Quelque chose qui se répète comme ça à longueur de journée, à longueur d'année, c'est pas un fait divers. Et donc, c'est d'essayer de montrer que les décisions politiques qui peuvent être prises, c'est pour ça que moi je fais mon signalement à la ministre du Travail. Je me doute bien qu'elle en a rien à faire et qu'elle va pas me contacter. Mais l'idée, c'est aussi de montrer que les politiques ont une responsabilité. Les décisions qu'ils prennent, la casse des services publics, la casse du code du travail, tout ça, ça a des conséquences quotidiennes dans le travail des gens. Et ces conséquences, elles peuvent mener à des drames, que ce soit les cas des accidents ou des suicides. Et le cas récent du cheminot en est un parmi tant d'autres, parce qu'en réalité, il y a les cas dont on entend parler, qui sont un petit peu médiatisés, et puis il y a tous les autres. Alors, on parle des accidents du travail, mais on pourrait aussi parler des maladies du travail, parce que c'est aussi des burn-out, c'est aussi des dépressions, ça va parfois jusqu'au suicide. Et c'est vrai que si on additionne tout ça, parce que c'est difficile de mener un travail global sur tout ça, parce que ça représente des dizaines de milliers de cas, en fait. Et si on additionne tout ça, on se rend compte que sur une année, en France, les gens qui sont directement morts du travail, il y en a plus d'un millier, en réalité. Et j'estime qu'un sujet comme celui-là n'est pas un fait divers, n'est pas un sujet banal, comme on voudrait qu'il le soit.
D'avoir un boulot de suivi. Et du coup, on en revient au travail de veille que vous et d'autres font sur différents sujets, qui est devenu, on va dire, un nouvel outil d'engagement citoyen.
Oui, moi j'ai beaucoup de gens, des gens proches de moi ou des gens que je connais absolument pas, qui viennent me dire, mais en fait, j'ignorais totalement. C'est aussi ça, ce sujet des accidents du travail, c'est que finalement, à force de pas en parler, on l'a oublié, ce sujet. Et il y a beaucoup de gens qui ignorent complètement que chaque jour en France, une ou deux personnes, en moyenne, vont décéder dans le cadre de leur activité professionnelle. Et moi, c'est aussi ça, l'idée, c'est en revenant plusieurs fois par jour, en montrant, il y a eu tel accident, tel endroit, telle conséquence, c'est de montrer, mais non, ça s'arrête pas, quoi. Et j'espère déjà pouvoir faire au moins une année comme ça. Je dis une année parce que j'en sais rien si je continuerai après, ce que ça pourra donner, parce que c'est un travail qui me prend pas mal de temps quand même chaque soir. Mais si on essaie déjà de tenir une année et de se rendre compte, regardons, en un an, qu'est-ce qui s'est passé? Et encore, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'est-ce qui s'est passé d'après ce recensement qui est inachevé, parce qu'il me manque tout un tas de cas. Là, en fait, je suis en ce moment, par exemple, dans la construction d'une carte interactive. L'idée de la carte, c'est qu'on puisse se rendre compte que déjà, ces accidents, il y en a partout en France. Il y a pas c'est pas juste dans les grandes villes, par exemple. On se rend compte que, franchement, il y a vraiment des accidents partout. Et l'idée, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent analyser cette carte, la regarder et se dire « Ah purée, il y a eu un accident à tel endroit, je connais, en fait. Il y a eu « Ah, il y a telle ville a été touchée. Ah, mais j'y ai déjà été, en fait. » Que ça puisse être un sujet qui reste, en fait, qui ne disparaît pas... juste à la lecture comme ça d'un tweet, quelqu'un est mort. Alors il y a des gens qui peuvent trouver ça un peu fatigant tous les jours sur leur fil d'actualité d'avoir ces nouvelles qui sont pas des nouvelles réjouissantes, parce que c'est pas un travail qui est drôle à faire et ce sont pas des nouvelles très enthousiasmantes, bien au contraire. Mais en même temps, si on ne le fait pas, et c'est ça qui m'a d'ailleurs vachement surpris, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de médias qui me contactent, c'est parce qu'en fait personne ne fait ce travail-là. Il y a des syndicats qui accompagnent des blessés lors de leur procès ou des familles de défunts dans leur procès. Et heureusement qu'ils ont cette présence-là auprès des victimes. Mais maintenant, au-delà de ça, il faut que ce soit un prof de la Seine-Saint-Denis qui le soir rentré fasse ses recherches et fasse ce travail-là. Mais l'idée, c'est qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens, en fait, à s'y intéresser. Moi, j'ai un recensement qui est partiel. Il y a les chiffres de la sécurité sociale qui sont supérieurs. Et puis ensuite, tout ce qu'on ne peut pas toucher, quoi. Et c'est vrai que tout ça mis bout à bout, on se dit que c'est assez énorme comme fait divers, quoi.
«
Sur ces questions de souffrance au travail, il y a encore énormément de choses à dire, ne serait-ce que si on s'intéresse à un dossier potentiellement explosif dont on entend finalement assez peu parler, celui de la SNCF, qui par bien des aspects ressemble de plus en plus à celui de France Télécom. On se penchera en détail sur cette question dès demain. Merci à Mathieu Lépine pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.